en train de vous faire au casseur de gassage. J'ai réfléchi totalement ce qui se
passe. Quand il s'agit de vous remercier au casseur de gassage, comme on peut en combinant les deux, de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'être très très nombreux à travers le pays et à travers le monde pour mettre à contribution votre expérience, votre savoir-faire au service de tous les Congolais en vue d'enrichir notre débat du jour. Aujourd'hui, notre débat sur l'apport porte sur l'apport de la CEAC dans la résolution des problèmes migratoires dans la sous-région. Les conseils des ministres des pays de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a commencé depuis hier à Kinshasa et les sommets des chefs d'État et de gouvernement débutent samedi prochain. Malgré cette réunion, il y a des problèmes entre certains pays membres, dont l'Angola et la RDC, qui se sont livrés à une guerre d'expulsion des ressortissants congolais et angolais qui vivaient dans les territoires angolais et congolais, parfois depuis de très nombreuses années. Alors, question, qu'attendez-vous de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEAC ce samedi à Kinshasa? Et comment, à travers les mécanismes de la CEAC, régler les problèmes de migration qui se posent dans cette sous-région? C'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Vous voulez y participer en direct, vous êtes le ou la bienvenue dans Parole aux auditeurs et nos contacts, nous vous les communiquerons bientôt. Nous en parlons avec un spécialiste, il s'agit du professeur Labana Lassaï Abar qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui venez de prendre cette émission en marche.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
En attendant que nous ayons le professeur Labana Lassaï Abar qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa, il est déjà là. Bonjour professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale se tient ce samedi et le conseil des ministres a commencé hier mercredi. Est-ce un sommet de plus ou bien on peut attendre quand même quelque chose de ce sommet?
Ok, si vous dites qu'il y a un sommet de plus, ce n'est que normal dans la rotation. Il est prévu dans le statut ou dans la charte de la CAC que chaque année, les chefs d'État se réunissent en sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il est normal que cette année, ils se réunissent. Mais ce qui est important, c'est le contenu de matière ou de leur agenda qu'ils vont traiter.
Ils vont traiter de quoi?
Je crois que pour le moment, ils vont survoler tous les problèmes du rang de l'heure qui concernent leur communauté, comment ils peuvent s'adapter à la situation du moment. Je crois que le plus important, peut-être, ils peuvent aussi, je n'ai pas cet ordre du jour, mais je pense, les problèmes actuels que nous avons en Afrique centrale sont des problèmes de réfugiés, où on peut aussi traiter au niveau de la communauté, trouver un terrain d'entente pour tous ces États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils peuvent aussi traiter des problèmes, par exemple, économiques, en faisant allusion à la crise financière,
oui.
Comment les États de l'Afrique centrale vont se comporter vis-à-vis de cette crise-là. Ils peuvent aussi parler de problèmes ayant fait à l'intégration sous-régionale,
au climat,
dans le cadre de la mondialisation, comment les États de l'Afrique centrale vont s'y mettre pour être dans le bateau, en quelque sorte.
Voilà. Professeur, merci beaucoup. On vous garde tout au long de cette émission. Question de prendre aussi certains auditeurs qui sont déjà en ligne. Olivier de Kananga, au Kassa Occidental et Arsène de Kikwit. Bonjour, Olivier.
Bonjour, c'est Claude. C'est un honneur, Olivier Kikwit, de la part de Kananga.
Ah, ok. Vous êtes au Kassa Occidental. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet des chefs d'État de la CEAC?
Oui, merci. Je crois que ce sommet de chefs d'État
et de gouvernement,
du gouvernement de l'Afrique centrale devait au préalable définir clairement les termes de référence par rapport aux échanges commerciaux qui doivent se passer entre les États membres. Et non seulement cela, créer aussi un bureau ou bien un cadre de concertation permanent composé des 10 représentants des 10 États membres lesquels diront devoir être liés étroitement au ministère des Affaires étrangères, aussi des experts de la migration des pays membres.
Il y en a 11, hein. Il y a 11 pays membres et non pas 10.
Ah oui, ok. Alors les 11 là, donc le bureau là permanent, il va collaborer étroitement avec le ministère des Affaires étrangères, avec les conseillers aux ambassades, étudier pour s'occuper du suivi de ces accords et étudier aussi les mécanismes de ces échanges et la philosophie des migrations, puisque ça se passe vraiment de façon à ne pas respecter les normes internationales relatives à la dignité humaine, comme on l'a constaté dernièrement en Angola.
Mmh. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'au travers de ce sommet, par quel mécanisme de la CEAC on peut arriver à régler notamment le problème de migration qui se pose dans la sous-région? On a vu quand même l'Angola et la RDC qui se sont livrés à une guerre d'expulsion de leurs ressortissants, des ressortissants soit angolais qui vivaient en RDC, des ressortissants congolais qui vivaient, disons des ressortissants angolais qui vivaient en RDC, et puis des ressortissants congolais qui vivaient en Angola. Par quel mécanisme la CEAC peut aider à réguler ce problème migratoire?
Je pense déjà que le cadre de conservation qui existe déjà, la CEAC déjà, qui est déjà un cadre de conservation qui réunit les États concernés, c'est une occasion pour le moment de définir clairement ces exigences, ces conditions. Je pense qu'il faudra renforcer au niveau du ministère des Affaires étrangères des États, renforcer ce que j'ai appelé les termes de référence.
Voilà.
Clairement dire, par exemple, créer un bureau qui s'occupe du suivi des décisions qui seront prises sur place. Puisque ces décisions, on les prend à chaque fois. Je crois que c'est le 14e. Ça veut dire qu'il y en a eu autant. On est en train de voir que les habitants d'un pays et de l'autre sont en train d'être chassés de façon.
Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Il y a eu quand même évolution dans ces dossiers entre l'Angola et la RDC. Le président angolais avait envoyé son vice-ministre des Affaires étrangères ici avec une délégation qui avait eu une séance de travail avec leurs homologues congolais et il avait été décidé de suspendre ces différentes expulsions d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup. Je retiens de vous qu'il faudrait mettre des mécanismes de suivi pour faire suivre ces recommandations des actes et non pas que ça reste sur le plan théorique. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, papa.
On vous écoute. Quel est votre rapport?
Bon, mon rapport se base un peu dans les critiques qu'on dit un peu de l'habitude. Je voulais dire ceci. C'est assez, c'est pas mal, c'est très bien. Les présidents vont se réunir, les techniciens sont là en train d'étudier ce qu'ils vont faire. Mais il y a une certaine différence qu'il faut faire dans les choses. Il faut faire la part des choses.
Oui.
Le peuple africain, surtout centrafricain, si je peux prendre le mot, c'est un peuple qui vit en communauté.
Les peuples de l'Afrique centrale, pas les centrafricains, parce que la Centrafrique, c'est un pays.
Alors, le peuple de l'Afrique centrale, c'est un peuple qui vit en communauté. Quand vous êtes un peu de voir notre tribu, vous verrez que les frontières ne sont venues là que pour nous diviser. Mais nous sommes en communauté. Je prends l'exemple du cas de l'Angola, parce que j'ai eu un peu de temps aussi que j'ai passé en Angola, j'ai un peu d'expérience là-dessus.
Mmh.
Les deux peuples en soi vivent très bien. Ils sont épousés. De l'autre côté, ceux qui sont de l'autre côté viennent aussi épouser ici. Ils ont des enfants qui ont des tendances différentes. Mais le problème se pose au niveau de la politique, de l'organisation politique. Je crois que c'est une occasion que nos présidents qui sont en train de se réunir, ou disons qui vont se réunir, de trouver un peu de mécanisme qui doivent faciliter cette union-là. Qu'on ne crée pas à partir de la politique. Créer une certaine méfiance de deux peuples, ou de trois peuples.
Créer quoi
une certaine méfiance.
Oui.
Parce que j'ai de l'expérience, j'ai vécu en Angola, mon frère.
Mmh.
Alors, les politiques, ils utilisent des mots pour s'asseoir politiquement, et c'est de mettre un peu les deux peuples en confusion. Je crois que c'est une occasion. Moi, mon rapport, c'est juste pour rappeler nos politiques, qu'ils essaient un peu de voir nos sources. Et dès qu'ils vont, ils vont utiliser cette base-là pour prouver leur politique, ce qu'ils vont faire, je crois que nous aurons la facilité des choses.
Merci beaucoup Arsène, de vous intervenir à partir de Kikwit, au Bandundu, à plus ou moins 500 km de la ville de Kinshasa. Je retiens que pour vous, les peuples angolais et congolais sont des peuples, sont deux peuples frères qui vivent en communauté et qu'il ne faudrait pas que la politique vienne créer une certaine méfiance entre ces peuples qui ont toujours vécu ensemble dès lors qu'il y a des mariages et plusieurs alliances. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà, je reviens à vous, professeur Labana Lassai Abar. Vous enseignez les relations internationales à l'université de Kinshasa. Nous revenons à vous dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Votre réaction, professeur, aux deux premières interventions.
Ok, la première réaction, l'auditeur qui a parlé de créer un mécanisme ou une structure pour suivre le déroulement ou l'évolution des accords signés, je dirais que tout cela existe déjà. Si nous allons sur le plan bilatéral entre tous les États membres de la CAC, nous allons trouver que dans les accords signés, il est prévu une structure permanente de concertation. Ce sont des commissions mixtes qui existent. Et au niveau multilatéral, au niveau de la CAC, ça existe. Pourquoi? Parce que les ministres des Affaires étrangères et disons tous les ministres qui ont des attributions concernant tous les problèmes traités au niveau des sommets des chefs d'État et de gouvernement, ils sont habilités à suivre l'exécution des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons aussi nos démissions diplomatiques permanentes dans les 11 pays respectifs ou les 11 États, et ces missions diplomatiques sont aussi des structures de suivi des décisions des chefs d'État et de gouvernement. L'autre là qui a parlé de peuples congolais et angolais, je reconnais que l'histoire, nous avons connu beaucoup des antécédents entre les deux peuples. Vous savez, si on parle aujourd'hui des problèmes d'immigration, des problèmes de réfugiés de part et d'autre, nous devons savoir que, suite au moment des événements, ont fait que il y avait des Angolais qui sont venus, qui ont fui la situation conflictuelle dans leur pays, c'était la guerre de colonisation, ensuite la guerre de libération, ils ont fui leur pays, ils sont venus ici, on les avait accueillis, ils ont étudié ici pendant longtemps. Mais il est normal que aujourd'hui l'État s'est organisé. Il est normal que l'État essaye d'exercer toutes ses compétences, n'est-ce pas, en ce qui concerne le territoire angolais. Il est de même de notre côté aussi. Suite au moment, nous avons eu des problèmes. Il y a eu exode des Congolais vers l'Angola qui étaient poussés ou animés d'aller dans les puits de diamants. À cette époque-là, vous savez, nous avions des relations très privilégiées avec l'UNITA qui contrôlait une partie de l'Angola avec les diamants, et il y a eu un grand nombre de Congolais qui sont allés là-bas.
Mais professeur, là,
pardon?
Professeur, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il y a eu quand même des expulsions des deux côtés, des personnes qui avaient leurs documents en bonne et due forme. C'est ça, les dérapages qu'il faut condamner.
Oui, il faut condamner, mais c'est là qu'il faut mettre aussi dans le cadre des principes de réciprocité entre les deux États. On ne doit pas chercher quelle infraction il a commis ou non, mais on procède d'abord par là et ensuite on examine l'examen de cela entre dans le cadre de la commission mixte comme on l'a fait dernièrement entre les deux pays. Mm-hmm. Mais c'est rien de normal, c'est le principe entre deux États. Chaque État voit ses intérêts. Les États n'ont pas de cadeaux, n'ont pas d'amis.
Voilà. Professeur, on vous garde tout au long de cette émission, professeur Labana, okay. Labana Assai. Le temps de prendre aussi René qui, lui, intervient depuis Ariwara, c'est dans la province orientale. Bonjour, René.
Oui, bonjour.
D'après vous, qu'est-ce que vous, à Ariwara, dans la province orientale, vous attendez d'une telle réunion, d'un sommet de la CEAC?
Alors, ce qui attendait, côté ces États, c'est mettre à sa corps pour chanter fort, puis que ça doit respecter son droit.
Est-ce que vous, dans, excusez-moi, on ne vous capte pas très bien, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, qu'est-ce que un sommet de la CEAC peut avoir comme impact chez vous, là-bas, à Riwara, au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la province orientale? Vous, vous êtes près de l'Ouganda ou du Soudan, si je ne me trompe pas. Vous êtes près de quel pays, précisément?
L'Ouganda et le Soudan.
Donc, est-ce qu'un sommet de la SADC, est-ce que les pays de l'Afrique centrale ont un certain impact sur vous? Par exemple, prenons par exemple le Gabon, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, l'Angola. Est-ce qu'ils ont un certain impact sur vous? Ou vous, c'est plutôt avec l'Afrique de l'Est?
Oui. Alors, je trouve que c'est un accord.
Voilà, merci beaucoup René, vous interveniez d'Ariwara, c'est dans la province orientale. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Nous quittons le nord-est du pays pour sortir du pays, de la RDC. Nous allons prendre la direction du Rwanda. Pierre, bonjour. Bonjour Pierre.
Oui, Pierre.
Vous êtes dans quelle partie? Bonjour, vous êtes dans quelle partie du Rwanda?
Je suis à Changugu, je suis près du contact de Bukavu.
Voilà, donc je disais, qu'est-ce que vous êtes congolais, mais qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays de la SADC, de la CEAC, quand on constate qu'il y a quand même des problèmes entre différents pays membres de cette organisation?
Vous savez, Claude, ici au Rwanda, cette histoire de CAC n'a pas beaucoup d'impact, puisque nous sommes gérés par la CPGL. C'est avec la CPGL qu'on a un peu beaucoup plus d'influence. Mais de toutes les façons, la RDC se présente toujours en position de faiblesse parce qu'on ne sent pas toujours l'impact de sa participation dans toutes les organisations régionales sur la vie vraiment des Congolais de tous ces pays-là. Le cas de l'Angola, c'est un cas vraiment qui nous a désolé presque plus parce qu'on ne sait même pas vraiment si notre diplomatie fonctionne normalement.
Donc, vous pensez que nos efforts sont un peu dispersés? Nous sommes à la fois à la CPGL, nous sommes à la CEAC, nous sommes à la SADC, donc dans plusieurs organisations. Il faudrait quitter certaines organisations pour se focaliser sur une seule, d'après vous?
Tout à fait. Excusez-moi de sortir du cadre. Je vais me revenir un peu sur la CPGL. Il a été prévu qu'au mois de septembre, les activités devraient commencer. On devait circuler 24 heures. Et si vous regardez du côté de nos frontières congolaises, rien n'est fait. Il n'y a même pas. Les services ne sont même pas informatisés, il n'y a pas du courant. On ne sait même pas comment, quand il va reprendre, qu'est-ce que ça va nous amener comme impact. Mmh. Dans les autres pays, quand vous sentez que c'est déjà organisé, tout est prêt.
Voilà, donc la RDC a. La RDC a du mal à suivre toutes ces organisations, voilà. Et d'après vous, comment régler les problèmes de la migration qui se posent dans cette sous-région des pays membres de la CEAC? On connaît les problèmes qu'il y a quand même dernièrement, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu, le gouvernement congolais a dû fermer ses frontières avec le Burundi, parce qu'il y a certains réfugiés congolais qui vivaient au Burundi, qui avaient l'intention de revenir. Comment on peut régler ce problème à travers la CEAC?
Vous savez, il y a un problème de force. J'ai dit dans l'introduction, il paraît que sur beaucoup de pays, de cette organisation, ne sont pas en ordre d'abord avec les cotisations.
Oui.
Est-ce que la RDC est en ordre vraiment avec les cotisations pour qu'elle puisse s'imposer aussi dans la prise de décision au niveau de l'organisation? Reste à savoir.
Est-ce que vous pensez qu'à travers la CEAC, on peut résoudre les problèmes de migration des Congolais qui vont en Angola, des Congolais qui vont au Burundi, des Burundais qui viennent au Congo, des Angolais qui viennent en RDC? Par quel mécanisme de la CEAC on peut résoudre ce problème? Est-ce que c'est un cadre adéquat pour cela?
En tout cas, moi je ne pense pas que c'est un cadre vraiment approprié. J'ai vécu au mois de février, j'étais au Burundi quand on a cherché les Congolais. Vous savez, Sénégalais, Libanais, toutes ces nationalités ont été versées sur le frontière de Gatumba au Congo. Vous savez, je ne sais même pas, moi je n'ai même pas espoir dans toutes ces histoires d'organisation, ça n'améliorera rien vraiment à la vie quotidienne de la population, même le problème d'immigration ne sera jamais résolu.
Mais vous semblez avoir confiance plus en la CPGL qu'en la CEAC.
Bon, la population de l'Est, à Kinshasa précisément, a vraiment beaucoup d'impact, d'influence, ou peut-être bien un gain de cause juste dans la tête jeune. Mais cette histoire est assez, vraiment, ça n'apportera rien vraiment dans notre région ici de Grand Lac.
Merci beaucoup, Pierre. Vous intervenez de la ville de Tchangungu au Rwanda. Vous êtes congolais, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup de continuer à vous intéresser à ce qui se passe dans votre pays, quand bien même vous êtes à l'étranger. Nous saluons la très forte communauté congolaise qui vit à Tchangungu, à Kigali, au Rwanda, au Burundi et dans les pays voisins. Merci beaucoup. Vous pouvez également nous appeler au 00-243-81-99-77-800, 00-243-81-99-77-800, et nous allons vous rappeler par Internet. Vous pouvez le faire à l'adresse pa@radioocapi.net, PA en un seul mot, @radioocapi.net. Radioocapi, c'est écrit en un seul mot avec deux lettres O collées au milieu pour que vous ne commettiez pas d'erreur en nous envoyant votre mail. Et envoyez-nous vos coordonnées téléphoniques aussi à travers un mail ou à travers un SMS et nous allons vous rappeler. Pour les SMS, vous pouvez participer à cette émission, nous envoyer votre point de vue en les envoyant au 09 98 999 222, 09 98 999 222. Envoyez-les-nous et nous allons les lire ici à l'antenne ou tout simplement vous rappeler. Professeur Labana, est-ce que vous êtes encore avec nous?
Oui, je vous suis, mon cher.
Vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé de Tchangungu au Rwanda, qui pense que pour eux qui vivent dans la partie est du pays ou de l'Afrique, la CEAC n'a pas vraiment beaucoup d'impact, hein, c'est plutôt la CPGL.
Oui, mais il a raison, parce que au niveau de la CAC, on n'a pas de projet visible ou des activités visibles qui fait marquer la présence de la CAC dans notre pays. Mais je crois que les sommets qui vont se tenir à partir de samedi dans notre pays vont être un sommet d'espoir. Mmh. D'espoir, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème de l'heure qui trouve les pays voisins qui sont membres de la CAC. C'est le problème des expulsés, le problème des réfugiés. Je crois que, en matière d'immigration, chaque pays a sa politique d'immigration. Mais pour harmoniser la politique d'immigration dans l'espace de la CAC, il convient que le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, ça dépend de l'appellation de chaque État, ils peuvent se mettre ensemble comme un organe technique qui peut proposer au chef d'État la politique d'immigration au sein de la CAC. Nous avons des techniciens qui sont chargés de suivre le problème d'immigration. D'ailleurs, l'auditeur a parlé tout à l'heure de la politique que les États de la CPGL ont adoptée en ce qui concerne l'immigration. Mmh. Effectivement, je me trouvais à Goma à cette époque quand cette réunion s'est tenue. C'est une bonne chose d'harmoniser la politique d'immigration. Mais ce qu'ils déplorent là-bas, c'est du fait que de notre côté, on n'a pas encore arrivé à... Parce qu'on avait demandé que lors de la frontière commune, là où se trouve l'entrée et la sortie, on devrait construire de part et d'autre, on devrait installer l'appareil pour le contrôle. Mais je crois que ça va venir. Et on ne peut pas... On prend la décision aujourd'hui et demain on exécute cela. Il y a beaucoup de contraintes, que ce soit du côté de tous ces trois États. Je crois que c'est une bonne chose. C'est un pas déjà pour contrôler l'immigration au sein de la CPGL. Et je crois, si au niveau de la CPGL, de la CAC, si les chefs d'État, les ministres chargés de la sécurité, les directeurs généraux d'immigration se mettent ensemble et étudient un projet pour que la CAC soit dotée d'une politique générale pour l'immigration dans cet espace de la CAC, je crois qu'on pourra, trouver la solution à tous ces problèmes que nous observons au niveau bilatéral des États voisins, etc. Je crois que la CAC peut apporter quelque chose dans le cadre de la résolution de ces problèmes, des expulsés ou des réfugiés de part et d'autre.
Qu'est-ce qu'il faut, professeur, pour faciliter le déplacement des populations à travers cette sous-région Est-ce qu'il faudrait supprimer les visas? Parce que pour traverser dans ces différents pays, je pense qu'on a besoin, pour traverser de la RDC vers le Rwanda, on a besoin d'un jeton. En 2008, j'ai traversé de Goma pour aller à Gisenyi avec un jeton. Mais pour s'installer, est-ce qu'on a besoin jusqu'à présent des papiers de résidence?
Non, en principe, vous savez, la CAC vise d'abord l'intégration économique des trois États. Qui dit l'intégration, dit l'unification de l'espace. À ce moment-là, si nous sommes intégrés, nous sommes initiés, on n'aura plus besoin d'avoir les visas. La simple présentation de votre passeport de la République démocratique du Congo, ça vous permet de circuler. D'ailleurs, les directeurs généraux de ces trois États ont prévu que un ressortissant congolais peut aller s'installer au Rwanda pendant un mois ou deux mois, pourvu que l'immigration du pays d'accueil connaît l'adresse où se trouve l'individu. Si en dehors d'un mois, il ne revient pas, on le cherche. Donc, ça, c'est un contrôle, ça va permettre la circulation des personnes de leurs biens. L'intégration, c'est ça l'avantage de l'intégration. Même nous disons aussi au niveau de la CAC vise l'intégration de tous ces États, c'est l'abolition de toutes les entraves au niveau de frontières.
Voilà.
Et dès qu'on va harmoniser la législation fiscale et douanière entre tous ces États-là, ça va permettre la circulation facile et ça viendra l'étape de l'abolition des visas. Nous avons par exemple la nature occidentale. Aujourd'hui, les États de la CEDEAO, ils n'ont pas besoin d'avoir les visas pour se déplacer. Moyennant votre carte ou un laissez-passer, vous pouvez aller dans n'importe quel pays membre de la CEDEAO.
Et ça va faciliter.
C'est une étape.
Professeur?
Oui.
Professeur, en peu de mots, parce qu'il y a Iloba de Kananga qui est déjà en ligne, si on supprimait les visas, qu'est-ce que cela peut apporter comme bénéfice à ces différents États?
Mais la situation de façon sera facile. Chacun peut élire là où il peut aller. Chacun peut traverser ses marchandises pour aller vendre. Et là aussi, c'est une unification d'une zone monétaire qu'on va utiliser dans tous ces États-là. Vous savez, aujourd'hui, le commerce est difficile parce que nous avons des monnaies qui ne sont pas convertibles de gauche à droite dans les autres pays. Mais lorsque nous sommes intégrés, nous sommes initiés sur le plan monétaire, ça va donner la facilité de déplacement. Même si vous n'avez pas besoin d'amener l'argent en poche, n'est-ce pas? Vous pouvez transférer à partir de votre pays, à partir de votre monnaie nationale, et ça sera convertible dans le pays où vous allez.
Voilà, merci professeur Laban Alassai Abba. Je rappelle que vous enseignez les relations internationales à l'université de Kinshasa. On vous garde tout au long de cette émission comme expert. Nous allons prendre Iloba qui est à Kananga, au Kasai occidental, et l'autre qui lui est académique dans la province du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, la province cuprifère du pays, tout juste dans une poignée de secondes.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Vous êtes bien sur la radio de la paix, Radio Okapi, et vous suivez présentement l'émission Parole aux auditeurs, cette émission de débat citoyen, d'échange, de discussion entre auditeurs sur un thème donné. Et aujourd'hui, nous parlons de l'apport de la CEAC dans la résolution des problèmes migratoires dans la sous-région. Le Conseil des ministres des pays de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a commencé depuis hier à Kinshasa, et le sommet des chefs d'État et de gouvernement débute samedi prochain. Malgré cette réunion, il y a des problèmes entre certains pays membres, dont l'Angola et la RDC, qui se sont livrés notamment à une guerre d'expulsion des ressortissants congolais et angolais qui vivaient dans les territoires angolais et congolais, parfois depuis de très nombreuses années. Alors, question, qu'attendez-vous de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEAC ce samedi à Kinshasa? Et comment, à travers les mécanismes de la CEAC, régler les problèmes de migration qui se posent dans cette sous-région? Donc, nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Labana, qui enseigne les relations internationales à l'Université de Kinshasa. Et si vous voulez participer à cet échange, à ce débat, à cette discussion, vous avez trois possibilités. La première, appelez-nous 081-99-77-800, appelez, nous allons vous rappeler. La deuxième possibilité, c'est de nous envoyer vos coordonnées téléphoniques et votre prénom, ou même votre analyse, vos suggestions, vos points de vue par SMS au 09 98 999 222. C'est notre numéro SMS. Envoyez-nous vos coordonnées téléphoniques ou votre point de vue et nous allons lire notamment votre point de vue à l'antenne. La dernière possibilité, si vous nous suivez à l'étranger ou à travers l'Internet ou peut-être aussi à travers votre matériel DSTV au canal, sur le canal 167, vous avez la possibilité aussi de participer à cette émission en nous envoyant un courrier électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. PA, c'est en un seul mot, Radio Okapi de même, mais attention, Radio Okapi se crée en un seul mot, mais avec deux lettres au collet. Voilà, nous allons quitter Kinshasa pour nous rendre à Kananga, au Kasai Occidental. Bonjour, Iloba.
Bonjour, Claude Kanza.
Alors, quel est votre rapport à ce niveau du débat?
Oui, monsieur Claude Kanza, j'aimerais dire ceci. Lorsque vous posez la question pour savoir les résolutions issues de ce sommet, bon, moi je me demande, c'est trop espéré à la CAC. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons d'abord le fonctionnement de la CAC, à mon humble avis et par rapport à ce que nous avons vu dans nos différents cours, nous nous rendons compte que c'est l'un des organismes vraiment qui fonctionne un peu en désordre, parce que la plupart de ces décisions ne sont pas respectées par les États membres. Donc, si vous prenez par exemple la COMESA, la COMESA a organisé quelque chose là qu'on appelle carte rose. Cette carte-là permet à tous les ressortissants de leur pays d'étudier librement dans tous les pays membres. Mais avec la CAC, il y a des sérieux problèmes. Vous avez relevé d'abord le conflit entre la RDC et l'Angola, mais ça ne peut pas s'entendre lorsqu'il y a deux pays d'un même organisme ou bien d'une organisation sous-régionale, mais qui se disputent des histoires qui pouvaient être réglées à l'amiable.
Voilà, donc on vous dit que la COMESA a institué une carte rose qui permet à tous ces ressortissants de circuler et même de s'installer, disons, facilement.
Oui. Même assez. Donc, lorsque vous avez cette carte-là, vous présentez, si vous êtes ressortissant, par exemple, de l'Éthiopie, et vous êtes vraiment libre, vous n'êtes pas inquiété. Donc, c'est comme un système de l'Union européenne. Il n'y a plus de frontières entre le pays, il n'y a plus de tracasseries, comme nous le voyons avec la CAC. La CAC, lorsque vous prenez la décision prise par le président donc de cet organisme-là, et c'est difficile pour que les États membres puissent un peu obéir ça. Il y a des contestations. Le cas pratique est de la République centrafricaine avec ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'il y ait une solution ailleurs pour que la République centrafricaine accepte. Mais une décision qui sort de la CAC, cette décision-là est contestée. Donc, c'est ça
c'est
vraiment
décision,
un problème
qui
ronge cette organisation sous-régionale.
Et là, on va terminer avec vous. C'est quelle question de la... C'est quelle recommandation de la CAC qui a été contestée par la République centrafricaine?
Oui, vous vous souvenez à l'époque du fait Omar Bongo Ndimba avec les groupes rebelles qui se passaient de l'autre côté. Il y avait une résolution, malheureusement, je ne suis pas à la maison pour me référer de ça. Il y avait une décision prise là-dessus, mais c'était contesté par le général Bozizé. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de l'Union européenne et du monde occidental pour que Bozizé puisse un peu se plier, puis accepter la même recommandation qui a été faite par la CAC.
Merci beaucoup pour votre contribution, Iloba. Je rappelle que vous intervenez de Kananga, c'est au centre du pays, dans la province du Kasaï occidental. Nous quittons le centre et prenons la direction du sud-est, précisément la direction de Kalemi au Katanga, la province que préfère de la République démocratique du Congo. L'OCEVU, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour, monsieur, oui.
Est-ce que vous pensez, comme Iloba de Kananga, qui vous a précédé, que la CEAC est en retard par rapport aux autres organisations telles que le COMESA, je pense, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que la CEAC a été créée en 1983, donc ça fait 26 ans depuis qu'elle existe.
Ok, moi je crois que ce n'est pas question d'être en retard comme tel. Il faut savoir poser la question de savoir si réellement les membres de la CAC se conviennent et veulent observer les réglementations. Parce que pour toutes les unions, il faut qu'il y ait une politique commune. Si les membres ne sont pas confiants de leur organisation, même s'il y a des résolutions, ils peuvent se réunir, les ministres, les présidents de la République, de toutes les républiques, les chefs d'État. Si les gens ne sont pas confiants de ce qu'ils font, comme ce qu'ils arrêtent, comme décision, comme résolution, nous pouvons le faire et jamais ne peut marcher. Mais moi, je crois que ce qui convient mieux de savoir, c'est que est-ce que réellement, au niveau de la CAC, il y a une politique d'abord commune, en ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne les réfugiés, parce que ça dépend de ce qui se sont convenus dans un premier temps. Pour moi, j'aimerais que la conférence de Kinshasa, par exemple, puisse arriver à ce point-là, pour dire que désormais, nous avons une politique commune au niveau de la CAC, et après, au niveau de la CAC, il y a moyen maintenant de suivre par les États. Les États doivent aussi suivre ce mécanisme-là. C'est pas question seulement de décider, de trouver les gens dans des forums, de temps en temps. Il y a beaucoup de forums qui se font, mais ces décisions ne sont pas respectées. Et ça, ça ne nous avantage pas.
Vous êtes à Kalemi, dans la province du Katanga. C'est vraiment au sud-est du pays, hein. C'est comme si on s'est dirigé vers l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, etc.
Exactement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain impact de la CAC par rapport à celui de la SADC, hein, avec l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, sur vous, là-bas, au Katanga?
Non, ici, c'est surtout l'influence SADC, vous voyez, c'est à côté de la Zambie, et puis en face, c'est la Tanzanie, vous voyez, c'est seulement la SADC qui a beaucoup d'influence à ce niveau ici. Mais quand nous appartenons tous, nous sommes les Congolais, la CAC nous intéresse, mais ces groupements doivent aller dans le sens des intérêts des populations des pays membres. Que ce soit la SADC, que ce soit la CAC, on doit avoir des résolutions qui déterminent à ce que les paysans de ces populations puissent trouver leur compte là-dessus. S'il s'agit de circuler, il faut qu'il y ait une politique commune. S'il faut le problème des réfugiés, il faut que les États s'attendent pour que les ressortissants puissent circuler librement et comment gérer les problèmes des réfugiés dans la région. Ça doit être une politique commune, mais suivie par les États. Le comble, c'est que chez nous, et surtout dans notre pays, la région de République du Congo, on n'a pas d'abord de politique nationale. Dans beaucoup de secteurs, je vous l'assure, monsieur le journaliste, beaucoup de ministères travaillent sans pour savoir où ils vont, d'où ils viennent, quel va. Un ministre qui arrive, il commence. Et l'autre qui vient demain, commence encore une autre deux. Mais on n'a pas de politique à suivre. Où est-ce que nous voulons amener les peuples congolais? Comment gérer les réfugiés qui sont chez nous? Comment gérer les réfugiés congolais qui sont à l'extérieur? Nous n'avons pas de politique. Et un monsieur, un pays qui travaille sans une politique d'orientation, donc en fait, on peut faire des réunions et on n'aboutira à rien.
Voilà, merci beaucoup. Vous intervenez à partir de Kalemi, dans la province du Katanga. Nous prenons maintenant la direction du Sud-Kivu, de Bukavu précisément. Emmanuel, vous êtes sur place, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Nous avons suivi un auditeur qui a dit que la RDC se présentait souvent en position de faiblesse. C'est Pierre qui est intervenu de Tiangungu au Rwanda. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, la RDC sûrement est en position de faiblesse. Ça, si on regarde même avec ce qu'on est en train de parler de la CAC, il n'y a pas au moins 3 mois qu'on avait tenu une réunion à Kinshasa. À la CAC, Eduardo Santos de l'Angola, tous les présidents étaient là-bas, mais quand même ils se parlent, mais on a vu ce qui s'est passé en Angola, c'est l'Angola qui a commencé.
Je ne sais pas confirmer si monsieur le président angolais Eduardo de Santos était ici.
Non, s'il n'était pas là, mais quand même il était représenté.
C'est sûrement.
Et quand ils sont tous des présidents, ils se parlent, c'est comme si quelqu'un qui chasse son enfant, qui est un journaliste là-bas, son collègue là-bas qui chasse son enfant de sa maison, d'une manière illégale. Donc là, on peut quand même comprendre que Yahé, ça ne va pas, il a fait à cela, ne va pas aboutir. Peut-être ça va mieux ici chez nous aussi, toujours avec la tête jeune, parce que quand même, on essaie de sentir ça que on circule un peu librement dans les pays du Grand Lac. Quand on va au Rwanda, on y va sans problème, avec les petits jetons qu'on essaie de prendre, même les expériences. Aujourd'hui, à Bukavu, j'ai vu qu'on avait implanté le système de, pour le transport des motards. Il faut qu'ils portent, que les clients portent la casque et les motards. C'est une expérience qu'on avait tirée du Rwanda, parce que là, au moins, il y a quand même un peu de l'ordre. Et j'ai essayé un peu de traverser la frontière rwandaise avec mes collègues de l'Afrique, l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Mais ils ont payé les visas. Nous, on n'a pas payé. Quand même, c'est quelque chose. Tu peux sentir que la CPG marche un peu bien par rapport à la CAC qu'on est en train de faire là-bas. Et puis, nous, on croit que les histoires-là de la CAC, ce sont que des slogans, mais ça n'aboutira à rien. Parce que, même comme Mugabe là-bas, dans son pays, on ne sait pas quel conseil il peut donner à Kabila. Quand on regarde même les conditions sociales, les gens qui vivent dans son pays au Zimbabwe.
Mais le Zimbabwe ne fait pas partie de la CAC, hein, ni de la CPG, mais plutôt de la SADC.
La SADC, peut-être, il faut participer à la SADC, mais nous, on croit que ce sont vraiment des simples soldats. Mais ici, chez nous aussi, si vous, quand même, à Bukavu, à participer, nous sentons quand même qu'il y a vraiment la question du CPG, c'est une réalité. Tu peux quitter même Bukavu à 18 heures, et tu te rends au Rwanda. Parfois, moi-même, je traverse sans jetons. Et les policiers rwandais qui sont là-bas, ils ne s'inquiètent pas beaucoup s'ils voient quand même sa figure deux fois, trois fois. Et ça, c'est quand même la seconde fonction. Mmh. Et en dépit même des antécédents que nous avons de guerre avec les Rwandais et les Burundi, la rébellion qu'on suspectait que c'était les Rwandais qui finançaient des rebelles, on circulait librement au Rwanda.
Voilà.
Vraiment au Burundi. Et là, on sent quand même les échanges économiques, les transactions. On sait ça quand même qu'il y a quand même une certaine communauté qui. Voilà.
Ouais, merci.
Donc, nous, dans le cadre de la CAC, ici à l'Est, on ne compte pas beaucoup sur ça. On ne sait pas quelle expérience les pays-là vont nous amener ici.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Résoudre les problèmes que nous avons dans notre pays pour aller maintenant à l'extérieur dans les histoires des communautés.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre contribution, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui voudraient intervenir, notamment Marcel Debouta dans la province orientale.
Parole aux auditeurs.
Marcel, bonjour.
Oui, bonjour, M. Claude.
Vous êtes à Bouta, dans la province orientale. Vous êtes tout près de quel pays? De l'Ouganda, du Soudan?
Nous sommes tout près du Soudan et de l'Ouganda.
Du Soudan et de l'Ouganda. Alors, au niveau de Bouta, dans la province orientale, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays de la SADC, de la CAC, ce samedi à Kinshasa? Est-ce que ça peut avoir un impact sur votre vie quotidienne là-bas, à Bouta, dans la province orientale?
Bon, je ne sais pas si il peut y avoir des impacts, parce que nous avons des conflits ici, des Mororo, tout ça là, mais il y a des communautés qui sont déjà établies, mais absolument, on voit comme si ces communautés-là ne font rien. Mais toutefois, on ne peut pas désespérer. S'il y a des organisations qui peuvent accepter nous contribuer, bon, c'est bien. Mais ce que moi, je voulais dire, je sens que...
Allez-y, on vous écoute.
Oui. Le problème qui est...
Décidément, nous avons quelques petits problèmes avec nos auditeurs qui nous appellent de la province orientale, notamment Bouta et des contrées voisines. Mais continuez à nous appeler, peut-être que ça va marcher très bientôt. Nous allons quitter la RDC pour nous rendre en Autriche, en Europe. Bonjour Franck.
Oui, bonjour M. Claude et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
C'est quand même bizarre que la communication entre Kinshasa et l'Europe soit nettement meilleure que celle entre Kinshasa et Bouta et certaines contrées du pays. Bienvenue dans cette émission, Franck. Quel est votre rapport à ce débat? Parce qu'on a à entendre les auditeurs, ils disent que nous sommes un tout petit peu dispersés. Ceux qui sont à l'Est disent qu'ils sentent l'impact de la CPGL et pas de la CEAC. Est-ce que c'est à cause de la distance géographique? Est-ce que le Congo s'est affilié à toutes ces organisations en fonction de sa situation géographique, c'est-à-dire que ces populations qui sont à l'Est profitent des avantages de la CPGL et ceux qui sont à l'Ouest, au Sud, profitent des avantages de la SADC et ceux qui sont peut-être à l'Ouest du pays profitent des avantages de notre affiliation à la CEAC. Est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie de la part du gouvernement congolais?
Bon, je crois, si je peux me souvenir d'une réponse qui avait été donnée une fois par le professeur qui intervient aujourd'hui.
Oui.
Il disait ceci, si je peux me résumer, que pour appartenir à de telles organisations, il faut d'abord calculer les retombées de toutes ces appartenances-là.
Mmh.
Du moment où vous vous rendez compte que si nous nous faisons membres de la SADC et de la CACC, nous allons bénéficier quelque chose du point de vue de la stabilité politique, du point de vue de la stabilité économique et même diplomatique, c'est alors aux dirigeants politiques de se décider. Moi, je crois que le problème qui est en train d'être soulevé par les compatriotes, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient du centre, c'est quand même un problème vrai. Parce que pour un pays qui n'est pas encore, ou pour un ensemble de pays qui ne sont pas encore structurellement bien organisés de l'intérieur, c'est un peu difficile qu'ils fassent des coalitions avec les autres. Parce que quand on doit, par exemple, voir avec la structuration de l'Union européenne, cela ne s'était fait pas en une seule journée, même pas en une année. On est allé étape par étape. Moi, je vois mal, par exemple, qui est deux États membres de cette communauté économique des États de l'Afrique centrale et que, qui a encore des conflits internes. Je crois qu'à ce niveau-là, on ne se fait pas encore confiance. Et moi, je vois mal qu'on dise, par exemple, qu'on doit vite aller aussi avec ce projet de la CPG. Si on a, par exemple, des dirigeants rwandais qui croient quelque part pas aux résolutions politiques, qui croient qu'aux résolutions militaires. Et moi, je trouve ceci, à cette heure de la mondialisation, le monde devient de plus en plus un gros village global. Donc, les peuples congolais, nous devons se voir cette histoire avec réalisme. Mais évidemment, nous devons aussi beaucoup travailler de l'intérieur. Parce que quand on n'a pas encore une armée dissuasive républicaine forte, je trouve que la RDC, quand bien même elle sera membre de ces organisations, elle risquerait toujours d'être considérée comme un vaste champ de démonstration de la suprématie militaire de ses pairs ou de ses voisins.
Franck, on a connu des problèmes d'expulsion des ressortissants angolais qui vivaient ici au Congo, d'expulsion des ressortissants congolais qui vivaient en Angola. Il y a eu aussi la fermeture de la frontière entre le Burundi et la RDC lorsque des réfugiés congolais vivant au Burundi voulaient retourner en désordre selon le gouvernement congolais. Est-ce qu'à travers des mécanismes de la CEAC, on peut régler notamment des problèmes migratoires au sein de cette sous-région, notamment entre l'Angola et la RDC et d'autres pays?
Oui, j'espère bien, c'est possible. Mais est-ce que je peux aussi vous poser une question, est-ce qu'il y a des conventions élaborées pour mettre en application de telles situations ou pas encore? S'il y en a, pourquoi ne sont-elles pas vraiment bien observées et appliquées? Je crois que s'il y avait des textes clairs qui régissaient cet organisme, donc on n'arriverait pas à ce chapitre des expulsions massives, comme on venait de l'observer. Mais quand bien même on peut nous dire qu'il y a des conventions déjà signées et que ces conventions ne sont pas respectées, donc ça, quelque part, ça frustre quoi. Quand on dit, quand on sait qu'on appartient à un organisme qui fonctionne mais dont les règles et principes ne sont pas observés et appliqués. C'est peut-être là aussi le problème.
Merci beaucoup Franck d'être intervenu depuis l'Autriche en Europe. Nous saluons également toute la forte communauté congolaise qui se trouve en Europe et partout à travers le monde. Nous savons que c'est des millions de Congolais, je pense plus de 6 millions de Congolais qui sont à l'étranger. Si vous nous suivez, nos salutations. Voilà, il y a aussi un autre Franck qui lui est à Béni dans la province du Nord.
Le Congolais.
Franck, s'il vous plaît, Franck, vous vous êtes à Béni dans la province du Nord Kivu. Attendez s'il vous plaît. Franck, s'il vous plaît, je vais vous accorder la parole. Il est temps d'écouter aussi notre invité, le professeur Labana Lassai Abar, qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa, qui est notre invité comme expert dans cette émission. Professeur, est-ce que vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis là.
Vous avez suivi toutes ces analyses. On sent encore que la population n'y croit pas beaucoup. Hein. Certains Congolais n'y croient pas beaucoup en l'efficacité de la CEAC. Je crois qu'on a, dans un débat qui a été organisé ici, toujours dans le cadre de Parole aux auditeurs, certains auditeurs s'est demandé, mais pourquoi on est membre de la SADC avec l'Angola, mais on continue à chasser nos ressortissants? Est-ce que les recommandations de la CEAC ne sont toujours pas appliquées, comme l'avait dit aussi dans cette émission un auditeur?
Ok, je voudrais d'abord relever un fait. Nous devons faire la différence entre une organisation internationale et un État dans le domaine de la prise de décision, dans le domaine de l'exécution de ces décisions-là.
Mmh.
Une organisation internationale décide sur base du consensus des États membres. Et cette organisation n'a pas une force coercitive qui peut permettre à cette organisation d'imposer, n'est-ce pas, ses décisions aux États membres. Nous savons qu'il y a des organisations qui ont le pouvoir au-dessus des États. Quand ces organisations décident, les États exécutent. La population exécute aussi.
Mmh.
Mais l'État a tous les moyens de prendre la décision aujourd'hui. Arrête une décision aujourd'hui, peut utiliser sa police, peut utiliser son armée pour l'exécution. Voilà, je voulais donner cette précision dans le cadre de fonctionnement, dans le cadre de la prise de décision. Nous devons faire attention à ce niveau-là. Deuxièmement, l'application des résolutions ou des recommandations d'une organisation internationale dépend de la volonté politique des États d'appliquer cela. Cette volonté politique dépend des intérêts de chaque État. Les intérêts que l'État a. Mais si les États ont pris la décision d'une manière consensuelle, cela entraîne l'exécution et l'application à travers, n'est-ce pas, les États membres et la population de ces États-là.
Professeur Labana,
oui, s'il vous plaît.
Professeur Labana, il semble que la CEAC est assez faible hein, par rapport aux autres organisations. Il y a notamment le ministre de la coopération régionale qui avait affirmé sur le micro de Radio Okapi que les différents membres, pays membres de la CEAC avaient, certains États avaient des difficultés pour contribuer. Est-ce que cela ne fait pas aujourd'hui que cette organisation semble un tout petit peu boiter la CEAC?
Effectivement, depuis 1983, on a créé la CEAC. La CEAC s'est butée à beaucoup de difficultés. Vous savez, le premier secrétaire général exécutif de la CEAC, c'était le professeur Lunda Bululu.
Oui.
Mais il a rencontré beaucoup de problèmes d'installer même la CEAC, les institutions de la CEAC à Libreville, compte tenu de nos paiements de contributions des États membres. Mais la faiblesse vient de là. Vous savez, justement, pendant des années, c'est le gouvernement gabonais qui payait au lieu que les États membres contribuent au paiement des fonctionnaires, aux dépenses de la CEAC. Effectivement, pour apprécier la force ou la faiblesse d'une organisation internationale, nous pouvons baser sur certains indicateurs qui veulent nous prouver qu'effectivement, il y a une faiblesse au niveau de cette organisation. Nous prenons par exemple un seul indicateur qui doit donner la force au budget de l'organisation, c'est le paiement des contributions.
Voilà.
Vous allez voir, la plupart des États sont en retard de leurs contributions. Ils ont des arriérés cumulés. Cela ne permet pas à l'organisation d'avoir de projets visibles dans les États membres.
Professeur, on va aussi écouter Jean-Paul qui, lui, intervient à partir de Kisangani, dans la province orientale. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, on vous écoute. Quel est votre rapport?
Ok, j'aimerais un peu intervenir sur l'incidence que toutes ces organisations ont sur notre pays. Je crois que notre pays a beaucoup embrassé. Alors, nous nous souvenons que qui trop embrasse, mal l'étreint. Notre pays est en train de s'affilier à beaucoup d'organisations internationales, mais nous qui sommes Congolais, nous n'arrivons pas à trouver vraiment l'opportunité. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous suivons la manière dont nos frères sont expulsés de l'Angola, nous qui sommes ici à la province orientale, nous sommes victimes de phénomène Mbororo. Alors je me pose la question, notre pays ne parvient pas à régler ses problèmes internes. Pourquoi toujours aller dans des organisations internationales?
Merci beaucoup. Malheureusement, on est presque à la fin de cette émission. Merci pour votre contribution, Jean-Paul, de Kisangani dans la province orientale. Antoine Segonde, professeur Labana, est-ce que nous embrassons trop, comme l'a dit Jean-Paul de Kisangani, qui trop embrasse, mal étreint?
Ok. Il est vrai que notre pays n'a pas une politique d'adhésion aux organisations internationales. Cette politique devrait se baser sur les intérêts de la République. Qu'est-ce que nous cherchons? Dans quelle organisation nous pouvons nous adhérer pour avoir les effets positifs sur la population congolaise? Je crois qu'il est temps que le gouvernement fasse l'état des lieux de toutes les organisations dont nous sommes membres et ensuite retenir les organisations qui ont un impact visible dans le cadre de développement de notre pays.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Labana Lassaï-Abar, d'avoir accepté notre invitation pour enseigner les relations internationales à l'Université de Kinshasa.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain vendredi, nous débattrons de la collation des grades académiques dans les instituts supérieurs et universités de la RDC. Quel est le sens qu'on accorde aujourd'hui à cette cérémonie? Deuxième question, malgré l'interdiction de la cérémonie des collations des grades académiques pour la deuxième session, cette cérémonie a toujours été organisée. Comment expliquer ce phénomène et comment mettre fin à cette confusion? Vous voulez réagir? Vous avez nos coordonnées. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde, Mahombi à la réalisation, Pierrot et la Mégie au contact, Kikim Poutou, à qui nous souhaitons bon rétablissement, et bien sûr Ben Kabamba qui était à la coordination. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir et à demain.